Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la France bouge. Une heure pour parler de celles et ceux qui osent, qui entreprennent, qui dynamisent notre quotidien. Ensemble, nous parlons du monde qui change positivement. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry, bonjour à toutes et à tous. Alors vous nous écoutez peut-être en ce moment même au volant de votre voiture, tiens peut-être même sur l'autoroute. Eh bien nous sommes justement aujourd'hui avec le patron de Vinci Autoroute, Pierre Coppet. Nous verrons avec lui si vous êtes nombreux à être parti en vacances ces jours-ci. On va aussi parler des batteries électriques qui vont enfin se développer sur nos autoroutes. Pourquoi aussi nous avons toujours l'impression de payer l'autoroute trop cher? Est-ce vraiment justifié? On lui posera toutes ces questions.
On connaît tous les voyages beaucoup trop longs en voiture. Eh bien, nous ferons découvrir de quoi vous occupez avec l'application Waynote, qui vous décrit les paysages aux alentours, vous raconte l'histoire de la région et vous indique les plus beaux villages à visiter.
Alors, ça n'existait pas à l'époque. On va faire un petit flashback justement dans cette France bouge parce qu'on va vous emmener sur la Nationale 7, la fameuse route des vacances avant l'arrivée des autoroutes. Séquence donc nostalgie également aujourd'hui dans la France bouge.
Et bien sûr, les trophées Europe 1 la France bouge avec un entrepreneur, une entrepreneuse qui vient défendre son projet. Aujourd'hui, Pauline Denis nous présentera sa box Beau Geste. Vous aimeriez acheter plus écolo mais vous ne savez pas par quoi commencer? Eh bien, elle choisit pour vous shampoing solide, brosse à dents durable, c'est à découvrir vers 13h45.
Et enfin demain, un emploi, chaque mercredi et vendredi, nous vous faisons découvrir une entreprise qui recrute là en ce moment. Aujourd'hui, Welcome at Work, une entreprise qui facilite l'accueil des salariés en entreprise. Elle cherche 90 nouveaux employés, dont une quarantaine de jeunes.
Bienvenue dans la France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, cette France, elle bouge, on est ensemble et en direct, comme chaque jour sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 14h. Et donc aujourd'hui, nous parlons des autoroutes notamment. Y a-t-il du monde sur la route des vacances? Ça pourrait être une chanson et ça sera en tout cas notre thème du jour.
Bonjour Pierre Coppet.
Bonjour.
Vous êtes donc le PDG de Vinci Autoroute, premier opérateur d'autoroute en concession d'Europe. Alors quelques chiffres. Vous avez plus de 4400 km d'autoroute, 453 aires de repos, 320 gares de péage. Bref, vous êtes un très bon baromètre du déplacement des Français en voiture. Alors puisque nous sommes en pleine vacances d'hiver, est-ce que vous pouvez nous dire déjà si les Français sont effectivement moins partis cette année que les années précédentes?
Bah écoutez, c'est un peu tôt pour le dire parce que nous sommes au début des périodes étagées de congés. Mais on peut dire que les Français sont partis en vacances. Le trafic souffre aujourd'hui. Il souffre du couvre-feu qui était à 20h, qui est à 18h. Il souffre des restrictions de transport et des restrictions de déplacement aux frontières. Il souffre de l'ensemble des mesures de protection de l'épidémie. Mais on constate que les Français sont quand même partis en vacances.
Vous parlez du couvre-feu, mais alors on a le droit de prendre un train qui arrive après le couvre-feu, mais on n'a pas le droit d'arriver en voiture après le couvre-feu?
Alors si vous me lancez dans l'analyse de la manière dont sont appliquées les mesures, je pense qu'on va se perdre, mais je pense que chacun a compris l'esprit de ces mesures et les respecte.
Point quand même très intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous semblez constater ce que nous on voit par exemple au niveau des réservations pour les vacances, du dernière minute, c'est-à-dire des gens qui sont quand même, pour ceux qui ont la chance de pouvoir profiter un peu de vacances, notamment au ski, ils sont partis et peut-être en voiture parce que l'offre de train n'avait pas tout à fait été adaptée. Vous le voyez surtout, ça sur vos réseaux?
Oui, on a le sentiment que les Français sont partis en vacances pour les vacances de février. C'est un peu tôt pour l'analyser et en donner le détail, mais nous n'avons pas eu de creux de trafic et ça signifie que les Français sont partis en vacances ces derniers jours, la semaine dernière et cette semaine.
Est-ce que vous savez où ils sont partis? Est-ce qu'ils sont partis effectivement à la montagne? Est-ce qu'ils ont préféré un peu la mer? Vous avez regardé ça plus précisément?
Alors ça c'est un peu tôt pour le dire précisément, notamment parce que les stations de ski sont fermées.
Le réseau les remontées Vinci mécaniques sont fermées, pas les
oui,
stations.
Oui, les remontées mécaniques sont fermées. Vinci Autoroute exploite le réseau de l'Ouest et plutôt les destinations vers la mer et le réseau du Sud. Et compte tenu du zonage des vacances, il est trop tôt pour vous répondre.
Aujourd'hui, si on regarde le trafic sur les autoroutes, notamment au travers de l'année 2020, vous avez eu bien évidemment les confinements, on a aujourd'hui le couvre-feu. Vous avez perdu combien de trafic sur les autoroutes?
Alors, l'année 2020 a été une année particulièrement chaotique en termes de trafic. Le premier confinement, le 18 18 mars s'étant suivi par une chute de trafic de 80%. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les mesures sanitaires ont été levées cet été, le trafic est revenu au niveau nominal. Ça veut dire que ça revient très...
Niveau nominal, c'est-à-dire à la normale.
À la normale, ça veut dire que le trafic revient très vite et que les déplacements par la route et les déplacements individuels ont toujours le vent en poupe. À la fin de l'année, on aura enregistré en 2020 une baisse de trafic de l'ordre de 20%. Lié au cumul de l'ensemble des mesures de restriction des déplacements dans le cadre de la gestion de l'épidémie. Ce qui est intéressant également, c'est de noter que le trafic des poids lourds, lui, s'est avéré plus résilient puisqu'il est resté voisin d'une croissance de zéro, ce qui veut dire qu'il est au niveau habituel. D'abord parce que la consommation des ménages et des produits manufacturés s'est maintenue à bon niveau, et ensuite parce que tous les systèmes de plateformes digitales et de distribution sont passés par la route et ont soutenu le trafic en dépit de la baisse d'activité économique de l'an passé.
C'est ça, le e-commerce en fait fait exploser le trafic. Pas exploser, vous dites, ça se maintient ?
Non, je dirais que compte tenu d'une baisse du PIB de 10%, on aurait pu imaginer une baisse du trafic routier des poids lourds de 10% et il s'est maintenu autour de zéro, ce qui signifie qu'il y a eu compensation par la consommation et probablement par l'activité des plateformes d'e-commerce.
On ne le sait pas toujours, mais le trafic sur les autoroutes, c'est un indicateur macroéconomique qui est utilisé pour voir comment fonctionne l'activité d'un pays. De ce que j'entends, de ce que vous dites, Pierre Coppet, patron de Vinci Autoroutes, une bonne partie de l'activité économique au travers de l'activité des poids lourds se maintient à un niveau correct.
Ce qu'on peut dire, c'est que le trafic des poids lourds se maintient à un niveau correct et que le trafic des véhicules légers est aujourd'hui affecté à la fois par la fermeture des frontières et par les mesures de couvre-feu et de réduction de circulation.
On sait que 75% des trajets domicile-travail se font en voiture. Avec le télétravail, vous avez eu une baisse quand même du trafic ?
On sait en effet que 3 déplacements domicile-travail sur 4 empruntent la route, mais on sait que ça représente une dizaine de pourcents du trafic autoroutier, donc l'impact est assez modeste.
L'impact est modeste. Est-ce que vous avez adapté vos aires d'autoroute à la situation sanitaire ? Est-ce que, par exemple, pendant cette période de vacances, on peut se faire dépister avec des antigéniques sur vos aires d'autoroute ?
Les adaptations ont été très nombreuses au moment du confinement et il a en effet été nécessaire d'adapter complètement les protocoles sanitaires. Nous avons eu à cœur de maintenir un niveau de service satisfaisant pour les héros du moment qui étaient les conducteurs de poids lourds et pour maintenir les sanitaires, les douches notamment. Pour
des food trucks aussi, je crois.
Et alors, comme la réglementation et le décret gouvernemental a conduit à la fermeture de l'ensemble des dispositifs de restauration, nous avons organisé des distributions de repas chauds pour les conducteurs de poids lourds et je crois que ça a été particulièrement apprécié dans un moment où les autoroutes étaient désertées. Mais donc c'est à la fois de l'adaptation des protocoles sanitaires et puis des mesures d'accueil provisoires. Et nous avons en effet multiplié sur un certain nombre d'aires, notamment à Montélimar, des expérimentations médicales et des expérimentations de tests pour permettre
ça pourrait se développer, aux usagers. Notamment cet été, on va peut-être avoir besoin de plus en plus.
Les autoroutes sont des lieux très fréquentés et il est tout à fait possible d'y multiplier des initiatives de ce type. Nous y sommes tout à fait ouverts.
Vous y travaillez ?
Nous y travaillons et nous avons accueilli une expérimentation de cabine d'automédication en lien avec de la télémédecine sur l'aire de Montélimar et on pourrait tout à fait multiplier ce type d'initiative.
Pierre Coppet, vous êtes le PDG donc de Vinci Autoroute, notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Merci.
Europe 1.
Et il est 13h18 pour le moment.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry. Emmanuel Dutheil.
La France bouge, on parle aujourd'hui de nos déplacements, on parle de nos vacances, notamment avec Pierre Coppet, qui est le PDG de Vinci Autoroute et qui est notre grand témoin aujourd'hui.
Et avec nous également dans ce studio, Nadine Pennemari, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous devez être une grande curieuse de nature, hein, Nadine, parce que c'est en roulant que vous est venue l'idée de cette application Why Not. Chaque fois que vous preniez la route, vous vous posiez des questions sur le paysage. Alors, c'est quoi l'histoire de la région ? Tiens, et ce village ? Est-ce qu'il est joli ? Bref, en 2015, vous créez cette application qui parle au conducteur pendant le trajet et lui décrit le paysage autour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça marche ?
Alors, déjà, l'application ne parle pas au conducteur, mais plutôt au passager.
On veut dire à la famille dans la voiture.
Voilà, le conducteur est concentré sur sa conduite.
Sur sa route.
Sur sa route. Effectivement, il peut écouter, mais cette application a été conçue surtout pour les passagers qui s'ennuient.
En voiture.
Oui, c'est vrai.
Alors, comment ça marche ? Dites-nous.
Alors, c'est très simple. En fait, on est parti effectivement du constat que les paysages nous questionnent et que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir les réponses dans l'instant aux questions que je me posais. Donc, l'application Waynote déclenche des messages audio en fonction de votre géolocalisation pour vous parler de ce qui vous entoure. Donc, ça peut être un village aperçu, des cultures dans les champs, un relief, la montagne Saint-Victoire, on longe les Pyrénées, etc. Et à chaque fois, donc, on vous parle un petit message court d'histoire, géographie,
voilà. Un petit exemple, locale, vous en avez un petit exemple là, qui vous a marqué?
Alors, j'avais justement préparé un petit exemple. Par exemple, sur cette colline, au château de Rouzat, le jeune Jacques-Henri Lartigue photographie sa joyeuse famille en vacances entre 1905 et 1923. 50 ans plus tard, quelques photos seront publiées dans le magazine américain Life du 29 novembre 1963, au tirage exceptionnel car consacré au président Kennedy, assassiné la semaine précédente. La célébrité du photographe et du château est de fête.
Comment vous choisissez tous ces lieux? C'est vous qui vous êtes dit, bah, tiens, tel endroit, vous avez fait toutes les routes de France?
Alors,
comment c'est possible?
Déjà, donc c'est des marqueurs dans le paysage qui servent d'introduction. C'est en fonction de ce qu'on aperçoit qu'on déclenche ce message. Ça peut être également pour chaque panneau marron. Nous avons un message pour chaque panneau marron qui parle d'un site à proximité. Les panneaux routiers nous indiquent des villages et donc chaque fois qu'il y a une petite histoire à raconter...
Alors si je prends un exemple, moi je fais souvent le Paris-Nantes pour aller voir papa et maman qui vivent là-bas. En fonction des différents villages, par exemple l'aire de Pierre-Mille, si on prend un exemple sur l'autoroute pour aller vers Nantes, là je peux avoir l'histoire de pourquoi ça s'appelle comme ça par exemple.
Oui, exactement, voilà.
Est-ce que vous indiquez aussi les meilleures aires de repos, celles où on peut jouer avec les enfants, celles où on peut aller pique-niquer?
Alors pour l'instant, nous n'avons pas référencé les aires de repos.
Ça serait pas mal.
Ulysse le fait très bien, mais effectivement, c'est complémentaire. En fait, je pense que pour le voyageur, l'idéal, c'est d'avoir le choix. C'est-à-dire qu'à l'aller, nous partons en vacances, nous avons le temps, plusieurs jours devant nous, nous prenons le temps de faire une pause et nous allons visiter un site remarquable à proximité. Par contre, au retour, nous sommes pressés de rentrer, il y a la rentrée, et à ce moment-là, on s'arrête sur une aire de service. Donc je pense qu'en fonction, l'aire de service et les territoires se complètent, et l'idéal, c'est que le voyageur ait le choix.
Alors on peut télécharger votre application gratuitement, c'est quoi votre modèle économique?
Alors nous travaillons avec des partenaires qui ont intérêt à faire circuler les voyageurs et à se faire connaître auprès d'eux. Parce que dans les territoires, donc, les acteurs voient passer des millions de touristes, mais ne peuvent pas les capter. Et avec Waynote, ils vont pouvoir les interpeller avec un message audio au moment précis où ils passent, pour développer leur notoriété, les inviter à une visite et donc augmenter la fréquentation du lieu et donc leur chiffre d'affaires.
C'est le cas avec EDF par exemple, qui vous proposait du tourisme industriel.
Voilà. EDF donc ouvre ses sites emblématiques au public, organise des expositions d'art contemporain ou des sons et lumières. Et donc, nous avons une vingtaine de lieux référencés dans l'application et nous invitons donc les visiteurs effectivement à aller découvrir des centrales hydrauliques, des centrales nucléaires, avec un petit message audio qui leur explique l'essentiel sur ce site.
Et on imagine que vous avez du coup une bonne croissance ces derniers mois, puisque cet été, par exemple, on est plutôt resté en France pour nos vacances. C'est une bonne nouvelle pour vous?
Alors, la tendance, effectivement, est très favorable, puisque les touristes redécouvrent la proximité. Ils ont envie de fuir la foule, de rechercher des petits lieux tranquilles. Par contre, en 2020, beaucoup de lieux étaient fermés. Donc, malheureusement, effectivement, ça a été une année un peu calme, mais ce sera mieux en 2021.
Alors Pierre Copé, PDG de Vinci Autoroute, vous êtes avec nous. Ça doit forcément vous parler, hein, une idée comme ça. Ça met en valeur tous les paysages autour de vos autoroutes. Vous en pensez quoi?
J'en pense beaucoup de bien. Je trouve cette initiative très sympathique. Nous en avons nous-mêmes pris un certain nombre de ce type, avec là aussi des podcasts qui sont baptisés « Dit quand est-ce qu'on arrive ?» et avec des indications touristiques ou des histoires sur les châteaux de la Loire qui sont aussi notre territoire. Et pour répondre à votre interrogation sur le référencement des aires de service et des différents services disponibles sur nos installations commerciales, vous trouverez tout ça sur l'application Ulysse, qui est le compagnon du voyage des voyageurs de Vinci Autoroute.
Très bien, bah ça c'est bon à savoir.
Et alors ne le répétez surtout pas sur Europe 1, mais nous avons un autre accompagnement de nos clients, qui est la radio, Radio Vinci Autoroute, que 86% des automobilistes qui circulent sur autoroute écoutent pour être accompagnés dans leur trajet.
On a aussi parfois des panneaux hein, sur les autoroutes. On
les
vous indique.
Bruns, panneaux,
ça, c'est quoi ? C'est la région qui vous paye pour le mettre ou c'est vous qui choisissez ?
Les indications touristiques, c'est un domaine qui est très réglementé de manière à ce qu'on ne pollue pas l'espace visuel en abusant. Mais ce sont des choses qui se font sous l'autorité de l'État, en lien avec les collectivités locales, de manière à signaler les points d'intérêt particuliers, les points d'intérêt touristiques.
Merci Nadine Pedemari. À tester donc pour notre prochain voyage l'application Waynote, W-A-Y, Note, N-O-T-E.
Et Pierre Coppet, le patron de Vinci Autoroute, on vous garde, vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Et on parle un petit peu de vacances, en tout cas de nos trajets aujourd'hui dans La France Bouge, notamment via les autoroutes, avec Pierre Coppet qui est notre grand témoin et qui est le PDG de Vinci Autoroute. Alors il y a de plus en plus de voitures électriques en France, hein, Pierre Coppet, et il va y avoir enfin des bornes, en tout cas les bornes vont plus se déployer sur toute la France, puisque l'objectif est de 100 000 bornes d'ici à la fin de l'année, et l'objectif est que toutes les aires de repos des autoroutes soient équipées d'ici fin 2022, de façon très concrète, on en est où aujourd'hui ? On peut faire un Lille-Marseille sur autoroute en voiture électrique ?
Alors de façon très concrète, il y a environ 190 000 véhicules électriques en France. Le gouvernement a planifié que d'ici à 2030, on devait passer à 8 millions de véhicules électriques en France. On est aujourd'hui sur des usages de véhicules électriques qui sont plutôt des seconds véhicules et des véhicules à usage urbain ou à usage local. Et peu de véhicules permettent de faire des trajets interurbain.
Mais si on le prend dans l'autre sens, pour que ça se développe, il faut qu'il y ait des bornes.
Pour que ça se développe, il paraît clair qu'il faut se situer dans une logique d'offre de recharge et qu'il faut déployer massivement des bornes électriques. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Allemagne en mettant sur ce projet à la fois l'ensemble de l'industrie automobile qui s'est réunie dans un consortium qui a déployé 400 bornes sur le réseau autoroutier et qui les a financés. Ça n'est pas le cas en France parce que les
constructeurs
ne
veulent
pas financer. Et l'État allemand a mis 3 milliards d'euros dans le déploiement.
Vous ne voulez pas répondre à notre question, c'est ça ?
On en est où en France ? On n'en a pas assez, on n'ose pas le dire.
En France, moi je veux bien répondre à vos questions. Simplement, quand les sujets sont compliqués, il faut un peu plus de 20 secondes pour vous répondre. Donc je vous ai dit que les Allemands avaient mobilisé les constructeurs automobiles et 3 milliards d'euros d'investissement. Les constructeurs automobiles français ne sont pas sur ce projet et attendent de l'État ce financement. Le plan de relance, dont les décrets ont été publiés ce week-end, c'est pour ça que vous m'en parlez, a prévu de dédier 100 millions d'euros à ce programme d'investissement.
C'est pas tout à fait la même chose
qu'en Allemagne. Effectivement que les aires de repos, les aires de service autoroutières soient équipées. L'objectif étant qu'à horizon 2023, on puisse en effet faire des recharges rapides.
Aujourd'hui déjà, on en est où ? On en a combien aujourd'hui sur vos autoroutes ?
Aujourd'hui, il y a sur le réseau Vinci Autoroute 200 bornes et nous souffrons du désengagement d'EDF qui avait déployé il y a quelques années un réseau, un maillage de bornes qui a été retiré il y a maintenant 6 mois parce que EDF a considéré que ça n'était pas dans ses priorités stratégiques. Et c'est pour ça que le gouvernement souhaite que nous redéployons
donc
un réseau.
Donc là, de nouvelles bornes et des bornes qui seront à charge rapide, 20 minutes, ce qui est capital parce que c'est à peu près le temps qu'on passe.
Ça fait absolument. Il faut des bornes ultra rapides, et pas rapides, mais ultra rapides pour permettre de faire un chargement en 20 minutes. C'est très compliqué parce que cela nécessite des installations classées, ça nécessite aussi d'amener la tension, ça nécessite de tirer des câbles et d'amener l'électricité. Et c'est l'ensemble de ce schéma directeur qui reste à faire et pour lequel les discussions vont maintenant s'engager.
Et apparemment, il y a pas mal de pannes. Il y a des difficultés.
Je vous confirme que le réseau EDF n'a pas fonctionné. C'est une des raisons pour lesquelles les bornes de Easy Way, qui était le réseau d'EDF, a été retiré.
Mais est-ce que vous pouvez nous donner un trajet aujourd'hui qui se fait facilement sur autoroute en voiture électrique ?
Alors, je vous confirme que pour faire des trajets de longue distance sur le réseau autoroutier aujourd'hui, vous n'avez pas un maillage qui est suffisamment dense pour avoir une sécurité de
recharge. Et ça ne
sera
pas le cas cet été non plus.
Ça ne sera pas le cas cet été. Il faut au moins 18 mois pour que les mesures gouvernementales commencent à se concrétiser.
Alors, sans faire totalement la comparaison avec l'Allemagne et tous les pays d'Europe, si on parle maintenant d'hydrogène, puisque là, on essaye aussi d'avancer en France sur notamment l'hydrogène vert, est-ce que vous pensez qu'assez rapidement, on va pouvoir avoir des pompes à hydrogène sur les autoroutes? Il y en a déjà un tout petit peu, puisque là, notamment
alors,
pour ceux qui ne seraient pas...
c'est une technologie naissante et c'est une technologie qui est tout à fait passionnante puisqu'elle est complètement non polluante dès lors que l'hydrogène est produit de façon verte.
Ce qu'on sait très très peu faire pour le moment
solaire.
En France.
Alors on sait le faire de manière expérimentale, on ne sait pas le faire à grande échelle, mais nous avons par exemple un projet chez Vinci Autoroutes à Toulouse, la création d'une entité de production d'hydrogène verte qui permettra d'alimenter les fourgons à hydrogène que d'exploitation autoroutière.
Pierre Copé, est-ce qu'on pourrait imaginer des trajets moins chers, des péages moins chers pour les véhicules propres sur vos autoroutes?
Vous savez, on peut tout imaginer dès lors que...
Dès lors que l'État paye.
Non, c'est pas dès lors que l'État paye. Vous savez, une concession, ça n'est pas un objet magique, c'est un contrat par lequel l'État charge un opérateur privé de financer une infrastructure. Ça coûte très cher de construire des infrastructures et les contrats de concession prévoient des compensations pour les investisseurs qui sont des compensations tarifaires. On peut tout imaginer dès lors que le contrat arrive à un équilibre qui permet de compenser les investissements.
Alors justement, comme tous les ans, début d'année, on a eu la hausse des prix des tarifs d'autoroute qui a été cette année un poil plus raisonnable que les autres années, mais on vous reproche souvent des prix qui augmentent beaucoup plus vite que l'inflation alors que vous faites des bénéfices qui sont hors année Covid. Vite quand même relativement confortable. Est-ce que vous comprenez ce sentiment des Français qui disent on paye trop cher, c'est trop cher l'autoroute et ça augmente trop vite?
Je comprends que vous me le dites régulièrement, Monsieur Dutheil, et ça me fait plaisir de vous revoir, mais vous avez sans doute mal regardé ou mal écouté Europe 1, puisque cette année, les deux tiers des tarifs de Vinci Autoroutes n'ont pas augmenté.
Et c'est pour ça que je me suis permis de dire
l'augmentation. Et l'augmentation est de 0,4%, ce qui est assez modeste. Ces augmentations, elles sont simplement le résultat d'une politique d'indexation qui, elle aussi, a été prévue au contrat. Et encore une fois, les lois tarifaires et les lois de progression des tarifs sont la simple compensation des investissements qui sont consentis par les sociétés d'autoroutes à la demande et pour le compte de l'État.
À la fin des concessions, l'État pourrait reprendre la main. Ça vous inquiète un peu ou vous dites, tiens, oui, peut-être qu'à un moment quand même...
Je ne sais pas. Vous savez, on est en 2021. La fin des concessions, c'est en 2036.
Il n'y en a pas une entre 2031.
Les concessions ont été privatisées en 2006. On a encore beaucoup de temps et beaucoup de choses à faire. La route est l'infrastructure qui accueille 9 déplacements sur 10 en France. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui, beaucoup à faire d'ici à la fin des concessions pour investir et permettre la décarbonation du transport routier.
Qu'est-ce qu'on peut faire justement là-dessus alors? Qu'est-ce que vous, Vinci Autoroutes, vous pouvez faire?
Déjà, je pense qu'il est important d'avoir en tête que si on investit beaucoup dans le ferroviaire représente moins de 10% des déplacements et 90% des déplacements prennent la route. Donc si on veut décarboner l'économie, il faut décarboner les transports. Si on veut décarboner les transports, il faut décarboner la route. Si on veut décarboner la route, comment on fait? D'abord, on multiplie les carburants décarbonés, l'électricité et l'hydrogène. Et puis ensuite, on s'efforce de densifier les usages de la route en multipliant le covoiturage, en multipliant les voies sur bus, les pôles d'échange multimodaux et tout ce qui permet un usage optimisé de l'infrastructure qui a le mérite d'exister. Il faut savoir qu'en France, il y a 1 million de kilomètres de routes et c'est le réseau le plus capillaire et c'est le réseau vital de l'économie française et c'est le réseau vital des échanges.
Et alors justement, vous développez des parkings de covoiturage, vous en êtes où? Ça fonctionne comment?
Alors aujourd'hui, il y a sur les 4000 km du réseau une quarantaine de parkings de covoiturage. Il y en a une quarantaine qui est en construction en parallèle. Ça fonctionne assez simplement et ça permet ou bien, comme c'est le cas à Brissouforges ou à Longvilliers en région parisienne, de laisser votre voiture et de prendre un autobus qui vous emmène à la gare de Massy, ou bien de donner rendez-vous à un collègue avec lequel vous finissez votre trajet de manière à éviter les encombrements et à éviter l'autosolisme, comme on dit.
Si on retourne du côté des autoroutes, parmi les innovations récentes, il y a ce qu'on appelle les zones 30 km/h. Pour ceux qui prennent régulièrement l'autoroute, c'est deux voies qui généralement permettent aujourd'hui de ne plus s'arrêter au péage, donc d'être à 30 km/h et de redémarrer. C'était une expérimentation au démarrage que vous êtes en train de déployer. Ça fonctionne très bien pour limiter les bouchons?
Oui, enfin, il faut savoir que les paiements aujourd'hui se font essentiellement de manière dématérialisée. On est à moins de 5% de transactions en cash et à plus de 90% de transactions par carte ou par badge. Les badges sont évidemment la meilleure façon de faire des transactions sans contact, mais les cartes bleues maintenant aussi sont lues sans contact.
Oui, mais il faut prendre le temps de sortir sa carte, etc. Ça, on perd du temps, c'est ça qui fait des bouchons.
Je vous encourage à vous abonner à Ulysse et à prendre un badge. vous avez bien fait. Et en effet, le temps de transaction est beaucoup plus rapide et on a près du tiers des transactions sur autoroute qui sont captées par les badges, enfin par les voies à 30
km/h. Pour ceux qui n'auraient pas envie d'avoir un badge parce que faut s'inscrire.
Mais c'est important de dire que c'est pas un abonnement quand même. On nous retire juste l'argent, ça coûte rien en fait.
L'abonnement à Ulysse coûte 2 euros par mois.
Ouais, quand on l'utilise, le mois on l'utilise et voilà, l'abonnement n'est pas pris les mois.
Vous connaissez bien Vinci Autoroute, monsieur.
On essaye de travailler avec Carole à peu près sérieusement nos dossiers quand même, c'est le but quand on vous reçoit. De façon sérieuse là-dessus, sur les passages aux zones 30, vous allez les déployer, parce qu'on pourrait aussi imaginer qu'il n'y ait plus de carte bancaire, qu'on paye sur notre smartphone avant d'arriver et qu'on se dise, on passe tous à 30 km/h, ce qui fluidifierait, notamment lors des heures de pointe, encore plus.
Alors, est-ce qu'on peut avancer là-dessus ? C'est technologiquement tout à fait possible, on en a fait l'expérience. Vous combinez votre smartphone avec votre plaque d'immatriculation et les caméras vous reconnaissent et la transaction est faite. Technologiquement, c'est très facile, on sait tout faire technologiquement.
Alors,
il y a quelques adaptations réglementaires et quelques adaptations de signalétique qu'il conviendrait de faire et c'est des sujets qui sont en discussion avec l'État.
Parmi les sujets réglementaires aussi, juste avant d'arriver à la Nationale 7, puisqu'on a envie d'avoir un petit peu d'histoire aussi dans cette France Bouge, il y a les voitures autonomes. Quand est-ce que, d'après vous, on aura véritablement la possibilité d'avoir des voitures totalement autonomes sur tous les autoroutes? Aujourd'hui, il y a quelques tronçons qui permettent des expérimentations, mais on en est encore très loin à la généralisation.
Alors nous avons, d'abord, il y a quand même déjà sur les véhicules haut de gamme des expérimentations, des dispositifs très intéressants de véhicules qui se conduisent tout seuls et qui non seulement tiennent la vitesse, mais tiennent la trajectoire et se calent sur la voiture de devant, ce qui est à peu près les règles de l'autonomie. Nous avons fait plusieurs expérimentations avec les constructeurs automobiles sur le réseau Vinci Autoroutes qui fonctionne. Quand est-ce qu'on sera totalement autonome? Je ne sais pas vous répondre parce que, encore une fois, technologiquement, on sait faire beaucoup de choses. Il y a des choses compliquées comme les échangeurs, comme les entrées sur autoroute. Il y a des problèmes réglementaires et toutes sortes de questions qui doivent être techniquement arbitrées. Mais techniquement, les expérimentations se poursuivent et sont plutôt probantes.
Alors Pierre Coppé, chaque jour dans La France Bouge, nous prenons le temps de revenir sur l'histoire d'une marque, d'un produit français qui a su traverser les générations, qui a marqué notre histoire. C'est le cas de la Nationale 7. Ça, c'était avant les autoroutes, symbole des premiers départs en vacances.
Et c'est raconté par notre grand conducteur de La France Bouge, Quentin Paillet.
Europe 1, La France Bouge, la saga.
Nationale 7. C'est une route qui fera 7.
Vous le reconnaissez, c'est Charles Trenet qui chante la Nationale 7, la route des vacances pour de nombreux Français. Point de départ, la Porte d'Italie, à Paris, arrivée 1000 km plus loin, à Menton, à la frontière italienne. Mais si cette route est connue pour être celle des vacances, son origine est plus ancienne et surtout c'est sa destination finale, la Méditerranée, qui a fait d'elle un axe important et très emprunté depuis l'Antiquité. Thierry Nélias, auteur d'une histoire de la Nationale 7, de l'Antiquité à la route des vacances.
La mer Méditerranée, très vite, a attiré quand même énormément de foule, surtout à partir des congés payés en 1936. Cet accès qu'elle a permis a fait en partie son succès, mais ça remonte quand même aussi à son histoire qui remonte aux Romains, puisque finalement c'était un itinéraire qui avait été créé et employé par les Romains sous l'Antiquité, et qui ensuite, tout au long de l'histoire de France, a continué à servir et puis à être le théâtre de faits historiques. Donc un axe stratégique, on peut dire.
Le succès de la Nationale 7, c'est d'abord les congés payés en 1936, qui permet à des millions de Français de goûter aux joies de la détente en bord de mer, et puis, après-guerre, la démocratisation de la voiture.
En fait, avant-guerre, donc en 1939, on a à peu près 2 millions de voitures seulement en France. Et le chiffre va être décuplé dans la décennie 50 et 60. Donc ce qui fait qu'on a une démocratisation des vacances. Et grâce évidemment aux congés payés, en fait, les gens vont pouvoir accéder justement plus facilement à la Côte d'Azur. qui reste quand même le must, si on peut dire, des vacances à cette époque-là.
Dans les années 1970, l'autoroute fait son apparition et progressivement, les vacanciers désertent la Nationale 7. Ils lui préfèrent les grands axes plus rapides, au grand désespoir des nombreux commerçants, restaurateurs, hôteliers, qui peuplaient le bord de la route. Mais la Nationale 7 est toujours là, dans l'esprit et dans le cœur de certains vacanciers. Comme ici, nous sommes en 1995 au micro d'Europe.
Il n'y a personne sur la Nationale 7 et on roule bien mieux. Et puis en plus, on traverse les patelins, c'est plus sympathique.
Et là, vous mangez quoi, là ?
Cuisse de grenouille à la Provençale, et on est bien contents.
C'est déjà le midi, ici, pour
vous ? Ah oui, oh bah oui, nous, on vient du Berry. Alors ici, c'est le midi, pour nous. Je me suis arrêtée voler des abricots sur le bord de la route. Voilà, on ne le fait pas sur l'autoroute.
Depuis 2006, la Nationale 7 n'existe plus vraiment. Ce sont désormais les départements qui la gèrent. Elle a été tronçonnée en de nombreuses départementales aux noms barbares comme D607 ou D2007. Mais si vous voulez vivre ou revivre l'ambiance des départs en vacances sur la Nationale 7, chaque été, à La Palisse, entre Vichy et Moulins, des passionnés reconstituent les fameux embouteillages au volant de vieilles voitures.
C'est vrai que les embouteillages, c'est ce qui nous plaît le plus sur la route. Pierre Coppet, patron de Vinci Autoroutes. Ce qui est important sur les autoroutes, c'est la sécurité routière. Ça a été un des éléments pour essayer de faire baisser un peu cette mortalité.
Oui, on a tous la nostalgie de la Nationale 7, mais c'est vrai que l'autoroute est 5 fois plus sûre que la route. Et c'est vrai que par rapport à la période bénie de la Nationale 7 de Charles Trenet, on a divisé par 10 l'accidentalité et le taux de mortalité sur la route, ce qui est quand même l'essentiel.
Pierre Coppet, vous êtes donc PDG de Vinci Autoroutes, notre grand témoin du jour, et vous êtes avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier. Attention devant notre partenaire de la CCI, Nathalie Carré. Elle est là, elle a déjà tout préparé, elle a tous ses arguments avec elle. Et devant l'œil attentif de notre grand témoin du jour, Pierre Coppet, le patron de Vinci Autoroute.
Et nous accueillons aujourd'hui Pauline Denis. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 38 ans, vous avez travaillé pendant 15 ans dans une agence de communication. Puis un jour, comme de plus en plus de monde, eh bien vous avez voulu donner du sens à votre vie, à votre travail. Et vous avez eu l'idée de cette box. Beau geste. Vous avez une minute pour tout nous expliquer, pour nous convaincre. C'est à vous.
On a tous conscience qu'aujourd'hui, il faut changer ses habitudes pour sauver la planète. Sauf que c'est toujours un peu difficile de se dire par quoi on commence, comment on s'y met et qu'est-ce qu'on fait pour changer. J'ai donc créé Beau Geste, qui est une box mensuelle où tous les mois, on peut découvrir 3 à 4 objets beaux, durables et surtout qui sont respectueux de l'environnement. Par exemple, pour le mois de mars, dans votre box, dans ma box, vous allez trouver une brosse à dents en plastique recyclé et recyclable, un dentifrice solide qui se présente en pastille, un joli shampoing solide et également un spray en verre. Et dans ce spray, tout simplement, on met les dosettes, on rajoute de l'eau et on obtient notre nettoyant ménager. Il faut savoir, chez Beau Geste, on passe beaucoup de temps à sélectionner nos fournisseurs qui viennent quasiment tous de France ou sinon d'Europe. Et aujourd'hui, on pense qu'adopter Beau Geste, c'est déjà se faire plaisir, mais c'est aussi respecter la planète.
Et ben voilà, vous voyez, vous nous avez dit en entrant en studio, oh là là, la minute ça va être dur, je suis un peu stressé. Je peux dire que si tout le monde était stressé comme vous, nos pitchs seraient tous excellents.
Elle a oublié de donner le prix.
Ah ben ça toujours, parce qu'ils veulent pas, ils ont peur. C'est moi qui le fais, 39€, c'est ça hein.
Tout à fait, mais si on s'abonne pour plusieurs mois, ensuite le prix est dégressif.
Bon, et ben super déjà pour ce pitch.
Alors retour maintenant de Nathalie Carré, notre coach maison, de pointer les forces et faiblesses de votre projet. Nathalie, que pensez-vous de cette box Beau Geste ?
3 points positifs. D'abord, le problème est bien posé. Par où commencer et comment faire des gestes qui changent nos habitudes sans nous demander des efforts qu'on ne tiendra pas dans le temps. Deuxième point, la marque est très cohérente avec l'esprit de votre offre. Il s'agit juste de changer quelques gestes, mais bout à bout, il y aura un impact. Et puis, les produits que vous proposez dans votre box existent et le fait de les rassembler fait gagner du temps. 2 points améliorés, vous mettez en vente des abonnements pour plusieurs mois, mais vous n'avez qu'une seule box qui soit prête, du coup on hésite à s'abonner. Il faudra annoncer les prochains contenus et si vous n'avez pas encore tout, peut-être au moins les thèmes. Ce qui m'amène au deuxième point, plutôt que d'appeler votre box « box numéro 1 »,« box numéro 2 », vous pourriez faire des box thématiques, box salle de bain, box beauté, ce qui vous permettra à terme de proposer vos box thématiques en vente à l'unité.
Alors, Pauline Denis, vous pensez quoi des remarques de Nathalie? Vous avez effectivement les prochaines box en tête?
Alors déjà, merci beaucoup pour cette analyse. Ça fait toujours du bien d'entendre, de pouvoir avoir ces conseils. Je suis complètement d'accord avec votre tour. C'est en effet prévu d'avoir des box thématiques. On a par exemple une box Fête des mères et Fête des pères qui est également en préparation. Et en effet, c'est prévu en fait de donner tous les thèmes, parce que chaque box sera aussi liée à une saisonnalité. Par exemple, au mois de juin, il y aura des produits qui seront utiles pour les vacances d'été. Au mois de mai, il y aura une thématique qui sera plutôt autour de l'esprit nomade, les pique-niques, etc. Donc effectivement, on va plus donner de visibilité sur ce planning de box.
Et moi, je me disais un point, alors je suis allé sur votre site internet, ouais, peut-être un peu trop rapidement, mais je me suis dit, si typiquement, le shampoing solide me plaît, pourquoi je ne peux pas le recommander directement sur votre site internet? Même pour vous, c'est plus intéressant, plutôt que de devoir aller sur le site du fabricant du shampoing solide, ce qui fait que je ne vais pas venir vous voir.
Alors, je suis bien d'accord. C'est justement un des développements qui va arriver assez rapidement chez Beaugest. C'est créer notre site d'e-commerce, où vous pourrez retrouver toutes les références. Et puis, effectivement, l'idée, c'est que vous avez adoré, par exemple, le dentifrice solide, les pastilles, vous les rachetez, vous pourrez aller sur notre site bientôt.
Pierre Copé, notre invité du jour, PDG de Vinci Autoroute, vous en pensez quoi de cette initiative?
Je trouve ça très sympathique et je pense qu'on pourrait dédier une box bureau pour Emmanuel Dutheil qu'on appellerait box office par exemple.
Bah oui, c'est pratique pour nettoyer nos bureaux, on aurait effectivement besoin de ça. Alors vous avez besoin de quoi justement? Je crois que vous avez besoin de sous.
Oui, parce que le prochain développement, comme je vous disais, ça va être notre site d'e-commerce. Et c'est par la suite également créer nos propres produits de la marque Beaugest pour avoir encore plus de visibilité sur...
Il vous faut combien du coup? Parce que là, si vous avez des investisseurs qui vous écoutent, allez-y, hein, soyez ambitieuse.
Eh bien, je dirais au moins 300 000 euros.
Pauline Denis, merci. Nathalie Carré, on vous retrouve bien sûr demain.
Et si
merci.
Vous aussi, vous avez une idée, hein, comme Pauline, pour venir présenter votre projet, il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Pierre Copé, nous arriverons déjà à la dernière partie de cette émission et nous vous gardons quand même jusqu'au bout, jusqu'à 14h. Vous êtes
plaisir.
Donc PDG de Vinci Autoroute.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et chaque jour en direct du lundi au vendredi sur Europe 1 de 13h à 14h. Aujourd'hui, on parle autoroute, notamment on parle de nos déplacements avec Pierre Coppel, le patron de Vinci Autoroute.
Et comme chaque mercredi, nous accueillons aujourd'hui une entreprise qui recrute peut-être un nouveau job pour vous demain. Bonjour Nicolas Bevaden.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Welcome at Work. Vous êtes avec nous parce que vous avez besoin de recruter. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait votre entreprise exactement?
Oui, bien sûr. Alors, Welcome at Work est un ensemble de services sur mesure dédiés à la gestion et l'animation des parties communes des grands immeubles de bureaux inspirés des codes de l'hôtellerie de luxe. Le service, il est incarné physiquement sur les immeubles par nos salariés, des Welcome Managers, qui délivre les services au quotidien, des services d'accueil, de réception, des services de conciergerie, de bien-être, et qui organise finalement un certain nombre d'événements pour faire vivre la communauté de l'immeuble. Le concept aujourd'hui, il est déployé sur 35 immeubles qui hébergent 250 entreprises et 30 000 salariés.
Alors, quel profil vous recherchez? Je crois 90 personnes au total. On essaye particulièrement dans la France Bouge d'aider les jeunes et vous avez, je crois, notamment 40 postes vraiment à destination des jeunes.
Exactement. Alors, pour remettre dans le contexte, hein, on recrute parce qu'on continue à croître. On devrait ouvrir 20 nouveaux immeubles en 2021. Ça représente une croissance de à peu près 70%. Et effectivement, nous avons prévu en 2021 de recruter 90 personnes, dont la moitié de jeunes de moins de 26 ans. Ce ratio, c'est à peu près ce qu'on a constaté dans les dernières années.
Quel profil, Monsieur Bevaden? Qu'est-ce que vous recherchez?
Alors, ces 90 postes, ils se segmentent en deux parties. Une vingtaine de postes au siège en fonction de support, principalement autour du commercial et du marketing. Et ensuite, 70 postes sur nos immeubles, donc de welcome manager avec deux niveaux de responsabilité. Un premier qui est des welcome managers seniors, qui sont plutôt des profils expérimentés avec 5 à 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie. Et puis des welcome managers juniors qui, comme son nom l'indique, sont des profils plus jeunes, idéalement, mais pas obligatoirement, avec une première expérience opérationnelle dans la relation client, l'événementiel, le commerce ou la réception.
Pour qu'on soit précis, c'est 70 en CDI et le reste en stage pour que ce soit un tremplin à l'embauche, ces stages. Hein. Si vous les prenez en stage, c'est qu'a priori, vous en avez besoin derrière.
Alors, c'est 90 postes. La bonne nouvelle, c'est que c'est 90 postes en CDI.
D'accord.
Et effectivement, en plus, nous avons une dizaine de recrutements à pourvoir en stage. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à des jeunes d'intégrer en stage, puis de basculer en CDI à l'issue de leur stage.
Les salaires, ça va, on imagine du SMIC au départ, mais il y a des postes avec des salaires plus intéressants ?
Alors effectivement, il y a des grilles de salaire en fonction de l'expérience. Nous, la façon dont on travaille, c'est l'idée de dire que la diversité est une richesse, c'est-à-dire que on tient compte de l'expérience, du profil, et que finalement, c'est au quotidien, dans l'implication et le travail, que les équipes peuvent progresser.
Alors c'est uniquement en Île-de-France pour le moment, mais vous avez l'ambition d'ici à la fin de l'année de vous déployer plus tard à Lille, Bruxelles. Pour pouvoir postuler, c'est recrutement@welcomeatwork.com, welcome comme bienvenue, @atwork, recrutement@welcomeatwork.com, et je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces offres d'emploi sur notre site internet. Il y a une carte interactive qui recense tous les emplois, et c'est disponible bien évidemment sur le site d'Europe1.fr.
Et vous, Pierre Copé, PDG de Vinci Autoroute, vous recrutez en ce moment ?
Oui, Vinci Autoroute recrute de l'ordre de 150 personnes par an, avec un soin particulier à la formation et au recrutement des jeunes, puisque nous recrutons des contrats pro à qui nous offrons 400 heures de formation par an, au terme desquelles, en général...
Et là, malgré la crise, malgré les difficultés, il y a les 150 offres d'emploi à peu près classiques.
Malgré la crise, malgré les difficultés, malgré l'automatisation et malgré la tendance l'augmentation de la productivité de nos métiers, l'évolution de la pyramide des âges et le besoin naturel du turnover fait que nous recrutons de l'ordre de 250 personnes par an chez Vinci Autoroute.
D'accord, donc là on va sur vinciautoroute.com, on trouve un site internet.
Absolument,
et il y a toutes les offres
sur
d'emploi.
Sur les réseaux sociaux ou sur les
Et on va rajouter ça sur notre carte interactive.
Merci Nicolas Bovaden pour ces offres d'emploi, donc pour Welcome at Work.
Et merci à vous Pierre Coppel, le patron de Vinci Autoroute, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.
Emmanuel, on se retrouve demain parler course hippique.
Bah oui, je vous amène à l'hippodrome. Alors oui, ils sont fermés, vous allez me dire, mais non, on va quand même regarder des courses. Il n'y a pas de public, mais ça marche très 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 bien, puisque notamment lors du Prix d'Amérique, le PMU a même battu son record historique pour les paris en ligne. Donc on sera demain avec Cyril Linette, le patron du PMU.